Je ne vais pas vous poser la question comment vous allez. Francine l'a déjà fait. Je ne sais pas si, pour ceux qui travaillent, ont remarqué que beaucoup de personnes sont fatiguées. Je parle avec mes collègues, tous me disent on est fatigué. Habille les vacances. Certains sont déjà en vacances. Et jeudi, avec Myriam, on était invité chez sa collègue. Et tout en parlant, son mari me disait pour l'instant, on est fort, fort fatigué. Il a eu le Covid. Ça nous a déstabilisés. Puis il dit, il y a la guerre, encore et encore. Et maintenant, tout augmente et on est fatigué. Et c'est vrai. Hier, c'est rare quand je fais les courses, j'ai fait les courses avec Myriam. Et là, devant nous, il y avait une personne avec son caddie. Il commence à payer et la personne du le responsable de la caisse lui dit « Monsieur, c'est que 2 paquets de farine, pas plus. » Je ne le savais pas. Il y a vraiment une pression dans ce monde pour l'instant où chacun de nous, avec tout ce qu'on entend, on est fort fatigué. Et ça ne vient pas d'aujourd'hui, ça date depuis qu'Adam est tombé dans le péché. C'est pourquoi Jésus dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera plus fatigué, loin de là. Mais bien au contraire, c'est là où on peut déposer sur lui tous nos fardeaux, tous nos soucis. Et il est bon ce matin de nous arrêter sur un passage qu'on connaît très bien, c'est dans l'évangile de Marc au chapitre 1 et on va lire les versets 29 à 39. Il est dit, en sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et André. J'ai dit les versets, versets 29 à 39. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre. Aussitôt, on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta, puis elle les servit. Le soir, après le coucher du soleil, on lui emmena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient des diverses maladies et chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent. » Tous te cherchent. Il leur répondit, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée et il chassa les démons. Voilà, ce matin. Ça, c'est la parole de Dieu qui est inspirée. Ce que je vais dire, c'est pas inspiré de Dieu, mais plutôt qu'on essaye bien sûr de regarder à travers de la parole de Dieu, de l'expliquer. Juste quelques paroles pour remettre ces versets dans leur contexte. Jésus est rentré dans une ville et cette ville s'appelle Capernaüm. C'est la ville des pêcheurs de Pierre, André, Jacques et Jean. Et dans cette ville, un peu partout dans les villes et même dans les villages, se trouvait une synagogue. la plupart savent c'est quoi une synagogue, ben c'est comme aujourd'hui. Nous sommes rentrés dans l'église. C'est des personnes qui étaient rassemblées, où on enseignait, où il y avait une lecture. Et Jésus est rentré dans cette synagogue un jour de sabbat. Et c'est lui qui enseignait Jésus. On ne sait pas de quoi il parlait. Mais tous étaient étonnés de son enseignement. Parce qu'il parlait avec autorité. Et non comme les scribes, les rabbins de cette époque. Parce que eux, ils parlaient en citant, bien sûr, les livres des proverbes, des prophètes, des psaumes, etc. C'est comme moi aujourd'hui. J'essaye d'expliquer la parole de Dieu. Je ne parle pas avec autorité comme Jésus. Parce que Jésus, il est Dieu. Et quand il parle, c'est directement Dieu qui parle. Et certainement, quand Jésus parlait, il avait un calme, comme aujourd'hui. Un calme, un silence. Tous écoutaient. Et tout d'un coup, un homme, dans la synagogue, il est dit, cet homme avait un esprit mauvais. Et il se mit à crier. Tu es venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui parle, mais plutôt l'esprit impur qui parle. Déjà la présence de Jésus sur la terre, c'est déjà le jugement sur les esprits impurs, mauvais. Et Jésus va lui dire, tais-toi, tais-toi. Ce n'est pas à l'esprit mauvais de dire qui il est Jésus, mais plutôt Jésus doit le dire. Mais il le dira quand il veut et où il veut. Tais-toi. Et Jésus lui dit, sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit avec des cris et avec des violences. Et cet homme est guéri. Et il est dit que toutes les personnes qui étaient là furent saisies de stupéfaction. Ils étaient étonnés. Ils étaient surpris de voir ce que Jésus vient de faire. Et sa renommée allait être partout, aussitôt. Nous voyons vraiment ici que Jésus enseigne avec autorité et que l'esprit impur écoute Jésus. Jésus a autorité sur les esprits mauvais. Nous voyons vraiment que le royaume de Dieu est présent sur la terre avec la présence de Jésus. Je ne sais pas si vous avez fait, on a fait attention, mais dans une synagogue, dans un lieu de culte comme ici, se trouve un homme qui avait un esprit impur. Ce n'est pas seulement dans le monde qu'on les trouve. Je dirais dans les boîtes de nuit, dans les bars, dans les stades, dans les écoles, qu'on les trouve. Même dans l'église, on les trouve. Même dans les églises, il y a des hommes et des femmes qui parlent à haute voix et qui disent « Je sais qui est le Saint de Dieu. » Ils parlent à haute voix, mais qui, parfois, dérangent toute une église en parlant à haute voix. Et on voudrait dire « Tais-toi, tais-toi !» Mais nous n'avons pas cette autorité comme Jésus. Mais nous voyons ici que les cœurs qui sont durs, ces cœurs qui sont forts, il y a un espoir pour eux. C'est que Jésus peut changer les cœurs. Il y a des hommes et des femmes qui crient tout le temps. Ça ne veut pas dire qu'ils ont un esprit mauvais, loin de là. Mais c'est des gens qui nous font peur quand ils parlent. Ils sont tout le temps à l'avant. Et on peut les retrouver dans nos rues, dans nos familles, dans nos collègues, à l'école. Ce sont des personnes qui sont toujours là, en train de crier, avec des cœurs vraiment durs. Mais le message central de Jésus-Christ, c'est la délivrance. C'est la délivrance. Quelle délivrance ! Mais de retirer ces hommes et ces femmes du royaume des ténèbres pour les transporter dans la lumière du royaume de Dieu. Parce que dans le verset 15 de ce chapitre 1, Jésus dit « Le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » C'est mettre sa confiance en lui. Il a autorité sur toi. Mais il nous invite à entrer dans son royaume par la repentance. Le message du Seigneur, c'est un message avec autorité. Ça ne veut pas dire qu'il est un message qui nous fait peur, mais un message de délivrance. Un message qui est clair et qui est précis. Voilà que le Seigneur est en train de montrer à cette synagogue qu'il peut changer les cœurs qui sont durs, les cœurs qui sont forts. Maintenant, nous arrivons dans le texte où on vient de lire. Jésus sort de la synagogue. Il est midi. Bientôt aussi, il est midi. Jésus sort et il est invité. Bien sûr, c'est Pierre qui l'invite. Chez la belle-mère de Pierre, avec ses amis. Il rentre, les pâtes sont prêtes, mais il y a un souci, c'est que la sauce n'est pas prête, parce que c'est la belle-mère qui prépare la sauce. La belle-mère prépare toujours les bonnes sauces. Myriam est partie, dommage, mais... ma belle-mère prépare bien la sauce. Au juste, c'est pas comme ça. Il est rentré et on lui a dit que la belle-mère était malade. C'est ça la réunion de prière, c'est lui dire. Elle a de la fièvre. Et je voudrais vous demander pardon parce qu'un jour, ici devant, je vous ai dit c'est une simple fièvre. Mais je me suis trompé. Voyez combien c'est important que la parole reste inspirée, mais l'homme n'est pas inspiré. Parce que dans Luc, lui, le médecin, dit qu'elle a une violente fièvre, une forte fièvre. Et en plus, dans les deux textes, elle dit, on dit qu'elle est couchée. Si elle est couchée, ça veut dire qu'elle est gravement malade, peut-être même la mort. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, la vie de tous les jours, si tu avais des douleurs, il fallait continuer et continuer à exercer ta fonction de servir. C'était un luxe de se coucher. Il fallait vraiment que tu sois gravement malade pour être couché. Et cette belle-mère de Pierre, elle est couchée, elle est vraiment, vraiment malade. Et Jésus s'approche d'elle et la fit lever en lui saisissant la main. Et Luc dit qu'il s'est penché sur elle et menaça la fièvre. Et la fièvre la quitta. Ce sont des gestes, mes frères et sœurs, de compassion, de tendresse et d'amour. Il menaça la fièvre. C'est tout à fait la même chose quand Jésus était avec ses disciples et il a eu cette tempête. Jésus menaça la tempête. Et en un instant, la tempête s'est calmée. Les disciples ont vu que Jésus a arrêté la tempête. Souvent, on prêche que la belle-mère, elle se leva et elle commença à servir. C'est vraiment beau. Mais il y a une chose qui est très importante. Si elle s'est levée et elle a commencé à servir, c'est qu'elle est complètement guérie. Complètement guérie. En un instant, en un clin d'œil, elle est guérie. Ce n'est pas une guérison progressive. C'est plutôt une guérison directe. Jésus peut le faire. Cela. Comme cette tempête. Ils ont vu cette tempête s'arrêter en une seconde. Et en une seconde, ils ont vu que la belle-mère s'est levée et elle a commencé à servir. Jésus a autorité quand il parle. Jésus a autorité sur les esprits mauvais. Jésus a autorité sur la maladie. Jésus veut délivrer les cœurs durs. Mais ce qu'on voit ici, c'est qu'il faut l'inviter. Il faut l'inviter. Et là, tu vois toute la tendresse de Jésus, tout l'amour de Jésus, et tu vois toute la compassion de Jésus. Il faut l'inviter. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Jésus nous invite. Et après le coucher du soleil, c'est toujours le même jour, c'est toujours ces 24 heures. Après le coucher du soleil, pourquoi il dit ça? Parce que le sabbat est terminé. Voilà, si tu as envie de faire quelque chose, tu peux le faire maintenant. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent tous les malades de diverses maladies. Et tous ceux qui avaient des esprits mauvais, tous viennent devant la porte de la belle-mère de Pierre. Ils sont en train de sonner. Il est dit que toute la ville était là. Comment ça se fait toute la ville était là? Mais c'est tous ces gens qui étaient à la synagogue ont entendu ce que Jésus a dit et ils ont vu ce qu'il a fait à cet homme. Mais tous sont venus à la porte de la belle-mère. Et ils ont porté des malades, des diverses personnes qui avaient des esprits mauvais. Ils sont venus là. Et Jésus a guéri beaucoup de gens. Et Jésus ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. C'est pas à eux de parler. Et puis, il est dit vers le matin. Oui, Jésus a été se coucher. Il est bon d'aller se coucher. Mais il a dormi pas beaucoup. Pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, Jésus, et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Il n'y avait pas de lieu de désert là. C'est plutôt un lieu désert, un lieu isolé, loin de la foule. Être seul avec le Père. Alors, dès le matin, beaucoup de gens sont venus encore à la porte de Pierre. De la belle-mère de Pierre, pour assister encore des miracles. Parce que certains n'avaient pas pris leur cousin, leur cousine, leur ami, leur tante. Mais c'est vrai, c'est Jésus qui guérit. Et là, ils sont venus. Il est dit que Pierre et ses compagnons, André, Jacques et Jean, sont partis à la recherche de Jésus. Et quand ils l'ont trouvé, Jésus, il est dit, tous te cherchent. Certainement, c'est Pierre qui le dit. Tous te cherchent. Ça veut dire que tous sont présents devant la porte de la belle-mère de Pierre. Il n'y a pas si longtemps, au travail, c'était un lundi, j'étais pas là, voilà que deux collègues du même secteur où je travaille se sont disputés. Mais une dispute, ça a été très loin, jusqu'aux mains. Le lendemain, mardi, nous avons l'habitude au matin de rentrer dans le bureau du chef parce que le chef nous donne le travail. Et ces deux collègues, il n'y avait plus qu'un. L'autre était resté à la maison. Et ce collègue qui s'est disputé a dit, pour l'instant, je suis fort, fort énervé. Il avait les yeux rouges. Et à l'intérieur de ses yeux, il y avait des larmes. Il commence à dire, ma fille a un cancer d'un stade bien avancé. Elle a commencé la chimio et elle souffre. Et elle doit subir une opération. C'est pourquoi je suis fort, fort énervé. Dans ce bureau, il n'y avait plus personne qui parlait, même plus le chef. On était tous avec les jambes coupées. Après quelques heures, ce collègue me connaît très bien et il sait que je suis chrétien. Je n'avais pas de parole pour lui dire. Et je lui dis, je vais prier pour ta fille. Il tape sur mon dos et il me dit, merci, merci. Et il y a quelques jours d'ici, je lui demande comment elle va, sa fille. Et il me dit, qu'elle doit subir cette opération. Et tout d'un coup, il me parle de cet hôpital de Bruxelles et il me dit, Gino, tu verrais combien de malades il y a dans cet hôpital. Il y a des gosses qui ont la tête par terre, qui ont des tumeurs à la tête, des plus âgés qui ont des cancers. Les gens viennent de partout pour avoir ce professeur, un professeur remarquable, mais qu'il ne sait pas prendre tous ces malades. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Qui de nous ne veut pas être guéri? Qui de nous ne veut pas être guéri? Même Paul, à trois reprises, il demande une guérison. Ces gens de Capernaum cherchent encore Jésus pour être guéris. Et les disciples arrivent près de Jésus et ils disent, tous te cherchent. Les disciples ont une pression par cette foule. Ce n'est pas trois gars, quatre gars qui sont venus. C'est une foule qui est venue. Et qui commence à dire, où est-ce qu'il est, Jésus? Tu ne vois pas mon fils comme il est? Regarde mon cousin comme il est. Où est-ce qu'il est, Jésus? Et ils sont partis à la recherche de Jésus. Mais si on regarde un peu plus près de cette lecture, On voit quand les disciples arrivent, ils disent « Tous te cherchent ». En quelque sorte, ils reprochent Jésus en disant « Mais qu'est-ce que tu fais là ? C'est pas là que tu dois être, c'est là chez ma belle-mère. C'est là qu'il y a des malades, c'est pas ici, c'est un endroit isolé, il n'y a personne. C'est là que tu dois être. » Les disciples se laissent influencer par cette foule de gens. Ils ont une pression qu'elle a. Et en tant que croyants, nous avons cette pression que tous doivent être guéris. C'est notre désir en tant que croyants. La maladie n'est pas le plan de Dieu, mais qui est apparu à cause du péché. Là, j'ouvre une parenthèse et je la referme tout de suite. Si tu es malade, ce n'est pas à cause de ton péché. Ça pourrait arriver, mais c'est à cause du péché. Et je referme cette parenthèse. Et ses disciples sont influencés par cette foule. Il y a une pression et même eux se laissent dire « Tous se cherchent ». Et en tant que croyant, on peut être influencé par une foule de personnes, mais pas rien qu'une foule de personnes, même des frères et des sœurs. Pourquoi je dis cela? Parce que ce sont des gens de la synagogue qui étaient là. Alors on peut avoir des frères et des sœurs qui nous poussent à avoir cette pression. Oui, Jésus doit guérir. Il faut absolument que Jésus doit guérir. L'ami de Jésus, Lazare, était malade. Et cette maladie l'a fait mourir. Et Marthe, sa sœur, dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Elle reproche Jésus, en quelque sorte comme cette foule et comme ses disciples. « Mais ce n'est pas là que tu dois être, Jésus. C'était près de mon frère qui était malade. » Marthe dit cela. Mais Marie dit la même chose. Gino dit également la même chose. Ça arrive de voir telle et telle chose. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pleuré. Le plus court verset. Jésus pleura. Mais pourquoi Jésus pleure s'il sait qu'il va le ramener à la vie? On s'est déjà posé la question là. Pourquoi Jésus pleure s'il va le ramener à la vie? Pas besoin de pleurer. Jésus pleure parce qu'il sait que la mort, c'est la cause du péché. Jésus pleure sur le pécheur. Jésus pleure sur la maladie. C'est la cause du péché. Jésus pleure sur le pécheur. Quand tu es au funérarium, que quelqu'un est décédé, mais on pleure, c'est normal. C'est normal qu'on pleure. Et dans notre cœur, si nous savons qu'il est chrétien ou chrétienne, il y a une assurance en nous de revoir cette personne. Mais on pleure quand même. Mais si on sait qu'elle n'est pas chrétienne ou chrétien, ben on va continuer à pleurer. C'est ça que Jésus est en train de faire. Il pleure sur Lazare. Et Jésus va ramener Lazare à la vie. C'est ce qu'il veut faire sur l'être humain. Voilà la nouvelle naissance. Il veut ramener toutes les personnes à la vie. Chacun de nous. Jésus guérit beaucoup de personnes de diverses maladies. et des esprits mauvais. C'était pour que toute personne rende gloire à Dieu, mais aussi pour donner un aperçu, un avant-goût de son royaume, le verset 15. Le royaume à venir. C'est quoi le royaume à venir? Mais c'est ce royaume où il n'y aura plus de douleur, plus de maladie, plus d'esprit mauvais, plus de péché, plus de mort. Tout cela en un clin d'œil, il n'y aura plus d'esprit mauvais. Comme cet homme, en un instant, comme cette fièvre est partie en un instant, et comme Jésus a guéri diverses maladies en un instant. Jésus dira pour cette synagogue, ces gens qui étaient là. C'est au chapitre 11 de Matthieu, au verset 23. Il dira, Capernaüm, et toi, Capernaüm, serais-tu élevé jusqu'au ciel, au paradis? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, l'enfer. Car si les miracles fus au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est faux ce qu'il dit Jésus. Les miracles étaient là pour que ces gens rendent gloire à Dieu et qu'ils se repentent de leurs péchés. S'il parle de Sodome, c'est la ville où il y avait jour après jour que des péchés, mais pas n'importe quel péché, que du sexe et du sexe. Et toi, Capernaüm, n'avais pas ce problème de péché, de péché. C'était la plupart d'entre eux, ils étaient droits, dans le sens qu'ils allaient à la synagogue, et ils écoutaient, mais sans croire au Fils de l'homme, Jésus-Christ. Moi, ça me fait peur d'entendre cela. Parce que c'est dans l'Église qu'on voit le plus de miracles. Et on est loin du Seigneur. Le message central de Jésus, c'est la délivrance par rapport au péché. Voilà la bonne nouvelle. C'est qu'il nous offre le pardon et non la bonne santé. Jésus a eu compassion de cette ville. Il a eu toute cette tendresse de cette ville. Il a montré tout son amour dans cette ville. Mais le message, ils ne l'ont pas accepté. Alors, dans notre vie de tous les jours, on peut se laisser influencer, comme ses disciples, par des gens qui nous disent « Jésus doit guérir ». Absolument. Jésus doit être à Erasme, il doit être à Notre-Dame de Grâce, à Marie Curie, à Bruxelles. Jésus est venu payer le prix du péché par sa mort. Et sa résurrection s'est prouvée qu'il a triomphé de la mort. Jésus a vaincu le péché et la mort. Quand Jésus meurt sur la croix, il a écrasé la tête de Satan. Et tous ceux qui placent leur confiance en lui bénéficient la vie éternelle. Ce texte nous rappelle que Jésus a autorité sur tout. Mais surtout, le plus grand miracle, c'est sauver l'homme. C'est sauver la femme. Voilà le message central. Il est venu délivrer. Jésus répond donc à Pierre et à ses amis d'une manière qui doit les surprendre. Jésus décide de ne pas retourner à Capernaum. Peut-être aujourd'hui, tu vas être surpris que Jésus répond comme cela. Il y aura des malades. Demain, il y aura encore des malades. Jésus nous rappelle, mets ta confiance en moi. C'est pourquoi le mardi, j'ai envie d'aller à la réunion de prière. Parce que c'est le seul et le seul qui peut faire quelque chose. On peut encourager nos collègues, nos amis, mais c'est le seul qui peut changer la vie. Et il est bon de remettre nos amis, nos collègues, notre famille et tous les malades entre les mains du Seigneur, parce qu'il a le dernier mot. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.